Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Cahors, par exemple, sur 105.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino, le compte aussi Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec un invité tout à l'heure, Emmanuel Girard-Rédé, qui est co-gérant des vignes de la Passion en Savoie, au cépage, au pays notamment du cépage Roussanne, notamment. Le Vino Quiz aussi pour gagner un coffret de 3 bouteilles de la marque Bandit de Loire, et un coffret Divine en jouant sur invinoradio.tv. Aujourd'hui, on reçoit donc nos invités, hein, avec Christelle Tarré qui est parmi nous, comme hier. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Ça va, vous avez bien dormi hier soir, tout va bien?
Très bien.
Bon,
parfait.
Vous êtes toujours propriétaire des caves du parc à Neuilly, et
j'espère,
toujours première femme, hein, maître caviste de France. David Cobold qui a bien dormi, pas forcément derrière Christelle. Vous avez bien dormi, vous?
Non, merci.
Co-fondateur de l'Académie des vins spiritueux. Et on commence avec notre premier invité qui fait partie maintenant de l'équipe de l'émission, Frédéric Olivier, propriétaire du château Le Bouis, pour sa chronique consacrée à l'œnotourisme. Bonjour Frédéric.
Bonjour Alain.
Aujourd'hui, on part dans le sud de la France.
Oui, on part dans le sud de la France, en Provence. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'œnotourisme? Ben, l'œnotourisme, c'est une autre façon d'aborder les voyages en France et à l'étranger. Je pense que voilà, c'est une façon d'aborder la nature, l'histoire, la grande, la petite, celle des hommes et des femmes, des passionnés. Et vraiment, j'ai vu des belles choses sur ce voyage en Provence. J'ai visité 5 domaines.
5 domaines.
Ouais. Voilà. Et alors, c'est terrible parce qu'une fois qu'on entre dans un domaine, on a beaucoup de mal à en partir. On est happé par la passion de ces vignerons et vigneronnes qui ne vous lâchent plus. Et donc, j'ai vécu de belles, belles choses et de belles rencontres.
Alors, allons-y. Vignoble numéro 1, je ne sais pas si on y va par vigneron.
Oh, on va y aller. J'ai fait un petit périple, en fait, un espèce de petit circuit. Et on démarre par le domaine de la Bégude, qui est en appellation Bandol. Donc, j'ai rencontré Guillaume et Soledad Tari.
Ils sont formidables.
Ils sont formidables. Ils ont rénové cet endroit. Guillaume est un passionné du cépage Mourvèdre. Et il a 600 hectares de garrigues et 27 hectares de vignes avec des restanques. Alors, c'est juste incroyable parce que la restanque, c'est 2 rangs de vignes. Et il fait un travail de folie.
Il a aussi beaucoup de sangliers.
Et il a aussi beaucoup de sangliers.
C'est sa bête noire.
Voilà,
ça tombe bien, David, hein, des bandoles rouges et du civet de sanglier, ça marche.
Oui, ça marche bien. Et alors, son grand challenge, bah, c'est les pierres, parce qu'à chaque fois qu'il retourne ses vignes, en fait, il y a d'énormes tables de pierres qui sortent. Et alors, il reconstruit avec ça son domaine, il en fait des murs, il en fait des tables dans sa garrigue. Et j'ai eu la chance, le soir, il m'a emmené en 4x4. Et il m'a fait découvrir la baie de la Ciotat, qui est la plus belle, qui a été élue la plus belle baie du monde avec Rio de Janeiro. Et là, bah, j'ai eu la chance de déguster ces vins et de manger de très bons fromages et de très, très bons saucissons.
Et alors, si on ne s'appelle pas Frédéric, on est bien accueillis là-bas aussi?
Alors, on est très bien accueillis parce que Soledad est une femme charmante, très accueillante, très attentionnée. Il y a 4 chambres d'hôtes qui sont toutes très, très mignonnes. Et aussi, on peut y faire des séminaires, des balades en 4x4. Enfin, c'est vraiment génial, génial. C'est un très bel endroit. On n'y va pas par hasard. Il faut vraiment...
Il faut réserver, je suppose.
Alors, il faut réservé, et puis c'est un petit peu à l'écart puisque c'est près du parc de la Sainte-Baume, donc en pleine nature, et c'est vraiment un endroit exceptionnel.
On peut dormir chez eux ou pas?
On peut dormir, il y a 4 chambres.
4 chambres.
Oui. Alors, si jamais vous êtes intéressé par les sports mécaniques, c'est tout près du circuit de Castellet.
Oui, c'est vrai aussi.
C'est autre chose.
Mais pourquoi pas, David? Ça fait partie de
l'œnotourisme. D'ailleurs, moi, je fais du vélo électrique là-bas parce que j'ai la chance d'avoir ma famille qui habite dans le coin. Donc, en vélo électrique, parce qu'en effet, tout est de.
Il n'y a rien de plat, quoi.
C'est pas possible.
Alors, quand on quitte Bandol, Frédéric, on va où?
Eh bien, on va pas très loin. On va au domaine de Fonds de Père. Autre domaine, autre philosophie. Mm-hmm. Là, j'ai rencontré un vrai chef d'entreprise qui vraiment était tombé amoureux d'un lieu et d'une vue. Et donc, il a rénové son domaine. Il en a fait un très, très beau restaurant. Mm. Il a une très belle cave aussi. Et alors, c'est très drôle l'histoire parce qu'au départ, il était producteur et importateur de caviar. Et donc, il fait des accords caviar, fromage de chèvre, produits locaux, accords mets vins.
Ce qui n'est pas facile, le caviar. Hein,
c'est... Et ce n'est pas facile. Il a une ferme auberge, donc une ferme auberge, c'est quoi? Ben, c'est proposer sur sa table au moins 51% de ce que l'on produit sur place. Donc il a un énorme poulailler de 200 poule, enfin voilà. Donc, et une table assez...
Nourrie au caviar.
Nourrie au caviar. C'est... Alors, je n'ai pas goûté la volaille, mais probablement.
Bon, certes, l'œuf, c'est 10 000 euros, mais... Alors après, on continue la balade.
Voilà, chose,
on continue la balade, Frédéric.
Oui, alors après, rencontrer une très bonne amie, Valérie Roussel, Château-Roubine. Un très beau domaine aussi, bien sûr, de très jolis vins, beaucoup, beaucoup de rosés qui sont très connus, et une femme passionnée et passionnante qui fait beaucoup d'événementiels sur son domaine, qui fait de très beaux concerts au mois de juillet, au mois d'août.
Et ça, c'est accessible à tout un chacun.
C'est accessible à tout un chacun. Tout ça est réservable sur les sites internet. Voilà, vous prenez votre billet et il paraît que c'est fantastique. Je suis invitée, je vous raconterai la fois prochaine.
Et les vins sont très bons aussi, parce qu'il faut d'abord des bons vins. Parce que
oui,
c'est des vins...
elle fait des bons vins. Elle vient de sortir une jolie cuvée qui s'appelle La Vie en Rose. La bouteille est magnifique. Et puis, bien sûr, c'est une amoureuse du Tibourin, un cépage qu'on trouve en majorité là-bas, qui donne de très jolis vins rouges, très sur le fruit.
Troisième étape de la balade, chez Valérie, qu'on embrasse, le Château Roubine.
Voilà. Alors après, un autre domaine, le Château Montaune. Autre philosophie, une famille qui a repris ce domaine, une femme d'abord, et puis ses enfants.
On sommes d'où ?
Alors, on continue le petit périple, on va vers Aix-en-Provence, là, on remonte. En fait, on tourne autour de ce grand massif, là, du domaine de la Baume, et on remonte vers Aix-en-Provence. C'est un petit périple qui fait à peu près, moins de 300 km, donc c'est faisable en deux jours. Et donc, une famille qui a rénové un domaine assez grand, en éco-responsabilité. Donc, on fait beaucoup d'événementiels, beaucoup de mariages. Et c'est un domaine particulier puisqu'en dessous de ce domaine coulent les gorges du Verdon.
Magnifique.
Donc c'est magnifique. Et avec une vraie volonté de restructurer le vignoble et de faire de grands vins rouges alors qu'ils font beaucoup de rosés. Donc un vrai challenge pour ces jeunes qui reprennent
c'est
ce
bien.
Domaine et qu'il faut
bien.
Encourager.
Et ils sont ouverts toute l'année ?
Alors ils sont ouverts de Pâques à octobre et ils ont des logements atypiques. Alors bien sûr des chambres dans le château, mais aussi une cabane dans les bois et puis un gîte dans l'ancien moulin.
Sympa.
Donc c'est vraiment très sympa, tennis. Alors là c'est plus un domaine familial alors que les autres domaines sont peut-être des domaines à faire plus en couple. Et là il y a des jeux pour les enfants, etc. C'est assez grand et c'est vraiment sympathique.
Allez, on termine la balade ?
On termine la balade et on termine la balade avec un autre domaine complètement différent, avec une autre philosophie, avec des gens passionnés de nos tourismes et qui sont partis de... rien, quelques
rien
hectares
tout,
de vignes
ouais.
seulement. Et le propriétaire, lui, a tout construit de ses mains, sa cave, son restaurant. Et ils avaient envie, ils se disaient, on a envie de se lancer dans le vin, on veut devenir vigneron indépendant. Ils étaient à la cave coopérative. Comment faire pour vendre notre vin ? On va construire de nos mains un restaurant. Et ils ont un restaurant bistronomique, très sympathique.
Et alors, comment ça s'appelle ? Et c'est où, alors, dites-nous ?
Ça s'appelle Terre de Mistral. C'est à Roussé. C'est au pied de la montagne Sainte-Victoire, que vous connaissez bien tous, bien sûr, parce qu'on fait aussi de jolis vins par là. Et donc, des gens passionnés qui font des rosés très aromatiques. Quelqu'un de très pointu dans sa cave. Il maîtrise très bien ses températures, sa vinification. Et ça donne vraiment des jolies choses.
On peut déjeuner chez eux ?
Oui, on peut déjeuner chez eux. Pas d'hébergement, par contre.
Pas d'hébergement.
Et ils ont eu...
ils font visiter le vignoble, les vignes,
je suppose. Ils font visiter le vignoble. Ils ont un parcours de visite. Et en fait, il nous dit, mais en fait, moi, je vous accueille dans mon outil de travail. Donc, on pénètre vraiment dans son outil de travail. C'est très intéressant, c'est très enrichissant. Et ce monsieur a eu un prix, le prix national de l'œnotourisme en 2013.
Bravo.
Et je pense que c'est une très belle réussite.
Surtout s'il a tout fait lui-même, chapeau. Hein.
Oui, bravo à lui.
Mmh. L'ancien menuisier parle, non, David ?
Ouais. Un peu maçon aussi.
Un peu maçon aussi. Quand
même. Un peu maçon, voilà. Ouais. Je pense que quand on est vigneron, il faut être, faut savoir faire
Merci
beaucoup.
Beaucoup. Faire, Merci oui. Frédéric pour ce très joli voyage. Alors David Cobol, on vous connaît depuis 15 ans à bord de InVino Sud Radio. Vous avez loupé quand même zéro émission ou quasiment pas. Vous avez aussi un autre talent, vous êtes un artiste. Ça, on ne le sait pas forcément. Vous peignez.
Oui.
Et on m'a dit que depuis le 12 juin, vous étiez présent via vos toiles, vos œuvres, en terre bordelaise, dans un très beau château qui s'appelle L'Arrivée au Brion. Racontez-nous, David.
Oui, c'est vrai que c'est une passion très ancienne. J'ai fait, il y a bien longtemps, 4 ans d'études de beaux-arts à Londres, après l'université, et avant de devenir photographe, puis menuisier, puis tomber dans une barrique et commencer à travailler dans le vin, ce que je fais depuis 40 ans maintenant. Mais la peinture est restée une passion. Je n'en parle pas parce que quelqu'un qui ne vit pas de sa passion n'est pas un peintre. mais je pratique à mes heures perdues, c'est-à-dire essentiellement en été. Et l'année dernière, année de Covid, comme on le sait...
Vous avez beaucoup peint.
J'avais beaucoup plus de temps parce que j'ai beaucoup moins d'activités habituelles et j'ai pas mal peint. Et puis, un peu par hasard, j'ai décidé de mettre une toile que j'avais faite sur Facebook. Et Bruno Lemoine, qui dirige l'arrivée au Bruyant, m'a contacté tout de suite en disant « Je trouve ça très beau, est-ce que tu as d'autres photos ?» Et je lui ai envoyé un paquet de photos. Il a dit « Bachiche, je te fais une exposition. » Il est venu chez moi dans le sud-ouest. Il a choisi 25 tableaux.
Ah oui.
J'avais rassemblé des choses. Bon, la plupart des tableaux sont là-bas parce que c'est là où je travaille essentiellement, la peinture. Mais j'avais des choses à Paris que j'avais descendues. Et puis, il a choisi des choses qui, au fait, couvrent une période de 40 ans.
40 ans.
Ouais, ouais.
Et quel est... D'abord, il y a un site internet, peut-être, pour... pas pour vous côté vin, mais vous côté tableau.
Alors, pour mes tableaux, je dois encore le faire. Donc, ça sera fait. À mon avis, ça sera fait où, à
au
l'heure
prochain
où,
confinement.
Où vous écoutez cette émission, ça sera certainement.
Mais quel est votre style, David? C'est
alors,
figuratif,
c'est très difficile de parler d'un style. Et sans être du tout prétentieux, je sais bien que la grande remarque de Picasso, quand voilà. On lui demandait... est-ce que vous avez un style, Monsieur Picasso? Parce qu'on ne comprend pas très bien. Il le dit, est-ce que Dieu a un style? Alors, je n'irai pas jusqu'à là, mais j'ai des styles différents. L'essentiel de mes tableaux sont représentatifs.
D'accord.
Beaucoup quand ce n'est pas le paysage, ou c'est le corps, le visage. Certains sont un peu abstraits, mais à la base, c'est toujours le paysage. C'est toujours, et parfois, c'est travailler directement sur le motif, mais très souvent, travailler après, soit après photo, soit j'emporte le tableau et je le finis dans l'atelier.
Et l'expo, donc, elle a débuté le 12 juin. Oui. Elle se terminera quand, David?
Le 12 août, parce que ça va occuper la période où ça va être dans le chai à vin blanc de l'arrivée au Bruyant. Qui, je le signale, a un très, très beau jardin. Qui
en quelle appellation,
visite.
D'ailleurs, l'arrivée au Bruyant?
Pessac-Léognan. Donc c'est pendant la période où le chai à vin blanc sera inoccupé. Il aura mis en bouteille l'année précédente et juste avant de récolter le millésime 2020 qui va être tout petit. Malheureusement, ils ont été durement frappés par le gel.
Un beau château avec de jolies toiles. Combien de toiles exposées, David?
Alors 25 ou 26.
40 ans. 40 ans de la vie avouable, David Kobold.
Avec tous les formats, avec des tout petits et des assez grands.
Bon, allez, il faut y aller massivement. Quoi.
C'est ce que vous avez fait.
C'est lui qui a choisi. Je préférais que ça soit. C'est son exposition, ça se fait chez lui, donc c'est lui qui a choisi.
Allez, il faut y aller. Donc le château Larive-Brion. Pour voir une autre facette de notre ami David Kobold. Dans un instant, on se retrouve au bar à vin du caviste Nicolas pour le Vino Quiz et gagner les coffrets Bandidoire et Divine.
Sud Radio Invino, midi 30, 13h, à la Marty.
Retour chez le caviste Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio pour nous indiquer vos vignons favoris. On retrouve tout de suite David Kobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, et puis le Vino Quiz, David.
Vous vous rappelez le principe, Alain Marty?
Allons-y.
Oui. Donc chaque semaine, une question et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux, c'est-à-dire un coffret de 3 bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret Divine et le livre Un autre tourisme et spiritueux en France et dans le monde. Alors, cette semaine, la question de ce week-end est quel musée Yves Rousserois, qui est le propriétaire du domaine de la Citadelle dans les Biberons, a-t-il ouvert au sein de son domaine? Option A, le musée du coquillage, parce qu'il y a beaucoup de coquillages chez lui. Option B, le musée du tire-bouchon, ça j'en sais rien, du tire-bouchon, oui, peut-être. Ça a un lien avec le vin. Et réponse C, le musée du stylo-plume, parce que c'est un grand écrivain, paraît-il, aussi.
Eh oui, A, B ou C.
Donc A, B ou C. Donc, vous répondez, et pour gagner ces magnifiques cadeaux, vous allez tout de suite sur le site, pendant toute la semaine qui suit, invinoradio.tv, à la rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
Merci beaucoup, David Kobold, de Vino Sud Radio. Accueille maintenant Emmanuel Girard-Aidé, qui est le co-gérant des Vignes de la Passion. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour.
Alors, racontez-nous un peu votre parcours, parce que vous êtes un peu l'expert mondial du cépage roussanne. Mais vous n'avez pas commencé par ça au début, hein?
Non, loin de là, parce que Alors, je suis petit-fils et fils de
vigneron,
de
quand
vigneron
même.
Savoie.
Donc la génétique est bonne.
Je suis quand même né dans le bain. Par contre, c'est vrai que assez rapidement, j'ai quitté la Savoie. J'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait un doctorat. Je suis rentré ensuite au CNRS comme chercheur au CNRS.
D'accord.
Donc, j'étais dans la physico-chimie des polymères, donc je suivais quand même des réactions chimiques. Donc,
Pas les mêmes.
Maintenant, je suis en train de réaliser que finalement tout était en ordre. Hein. J'ai fait ce passage-là pour me préparer à mieux revenir là où je suis
Et puis un jour, donc, avec votre frangin, vous avez dit, on reprend les
voilà,
vies familiales,
alors,
quoi, le
ouais,
papa.
Alors ce jour est assez récent. En fait, tout ça s'est passé... le moment charnière, c'est il y a 2 ans. Vraiment, ça a été un moment clé où je réalise que mon père, qui a 77 ans, qui commence à avoir des gros problèmes physiques et qui a travaillé comme un titan dans ses vignes depuis 40 ans. Voilà, on voyait en lui vraiment la personne indestructible. Et là, on voit que...
Ouais,
que
ça, finalement, c'est
voilà,
un humain.
Que la bête commence à vaciller, que c'est un humain. Et je réalise que cet homme, à 77 ans, n'est toujours pas à la retraite.
C'est fou. Hein.
Ça a été un truc vraiment qui m'a remué vraiment au niveau des entrailles.
On est quand même très loin du CNRS. Hein.
On est très loin du CNRS et de la psychanalyse, parce que je suis aussi psychanalyste, donc j'ai un parcours singulier.
Vous prenez beaucoup de champignons dans la vie ou pas?
Mais je crois que vous aussi, vous avez un parcours un peu atypique.
Oui, oui, oui.
Voilà, donc, c'est la richesse de la vie. Hein,
on a tous des parcours vraiment assez atypiques. Je crois.
Voilà. Et alors, donc, vous décidez de changer de vie.
Et là, voilà.
Et le frangin, c'est quoi le frangin?
Parce que je continue à avoir cette activité au CNRS, et j'anime toujours des sessions de psychanalyse corporelle. Mais avec mon frère, ça a été le déclic, on s'est dit, allez, on y va.
Il faisait quoi, le frère?
Mon frère, il a un parcours de commercial, il travaille dans le monde du sport.
Ah, non, je ne suis pas désolé, on a besoin de commerçants en France.
C'est même essentiel pour vendre.
Je
ne
suis absolument pas désolé, donc voyez la complémentarité qui s'annonce.
Et lui s'est dit aussi, banco, on y va, on bosse tous les deux déjà.
Je suis allé le voir, j'ai dit, Vincent, là, moi je suis prêt à y aller, en plus une aspiration, j'ai beaucoup vécu en ville, enfin bref. Là, je vis à Marseille encore et là, j'aspire vraiment un retour à la campagne, de me réinstaller en Savoie. Et donc voilà, c'était un moment clé aussi dans ma vie, dans la sienne. Et voilà, c'était le bon moment et on s'est dit, banco, on y va.
C'était il y a 2 ans.
C'était il y a 2 ans et donc début 2020.
Christelle n'était pas encore première femme maître
caviste. Voilà,
j'étais déjà caviste indépendante.
Voilà, les vignes de la passion, ça c'est le nom qu'a donné... au domaine de mon père, un mot-clé quoi, qui parle vraiment de la façon dont il a toujours appréhendé ce métier de vigneron. Et donc voilà, on s'est lancé à ses côtés, évidemment. Hein. Donc là, on est vraiment sur un trio. On est vraiment... Alors, on a toujours suivi mon frère beaucoup a toujours été présent au moment des vendanges, au moment des vinifications. Donc, on part pas du tout de zéro du tout. Mais
David, vous avez une question, David ?
Mais là, il y a vraiment une transmission qui est en train de s'opérer.
Est-ce que vous pourriez nous situer le domaine ? Il se trouve dans quelle partie de la Savoie ? Parce que le vignoble est très morcelé en Savoie.
On est sur, au niveau des vignes, on est sur la commune de Montmélian. Mm-hmm. Donc, on est sur les premiers coteaux du massif des Bauges. Là, vous fermez les yeux. En face de vous, vous avez le massif des Belledonnes, extraordinaire. Sur la droite, vous avez le massif de la Chartreuse.
À gauche, Christelle Tarré. À droite, Frédéric Olivier.
Et si vous pensez à gauche, vous avez le Mont Blanc. Voilà. Donc, on est sur les premiers coteaux. Montmélian, c'est l'une des 3 communes. Le caveau, le Chai, est sur la commune de Francin. C'est 2 des 3 communes de l'appellation Chignin-Bergeron en Savoie. Mmh. Sachant que, oui, on est donc sur ce monocépage roussanne qui, en Savoie, est connu sous le terme bergeron.
Ça vient d'où, la roussade, David, vous qui êtes le...
Je ne sais pas, c'est très difficile de situer.
En reproduction des cépages.
Moi, je ne sais pas. Et ce n'est pas facile de donner une origine géographique précise. Alors, la roussanne est très connue dans les Côtes-du-Rhône du Nord, déjà. Mais vient-elle de la Savoie ou des Côtes-du-Rhône du Nord? Je ne sais pas. Est-ce que vous le savez, vous?
Je serais incapable de répondre à la question.
Il n'y a que des gens incapables, c'est une émission pourrie ce qu'on fait là.
Je sais que...
Non, mais c'est compliqué, les origines.
Oui, alors, au niveau des origines, mon père me dit que... Donc, mon grand-père a été un des premiers en Savoie
à planter
ce cépage-là, d'où la tâche.
Mais s'il a planté, c'est-à-dire qu'il n'était pas forcément autochtone. Enfin,
En tout cas, il est dans les Côtes-du-Rhône depuis plus longtemps, probablement, que la Savoie.
Alors, est-ce qu'il
vient de... Mais d'ailleurs, je crois que la mondeuse qui est utilisée, c'est aussi un hybride de la Syrah. Donc on retrouve...
La mondeuse est un cousin de la Syrah.
Voilà,
La Syrah a 2 parents, a une mondeuse blanche et la Duraza qui vient de l'Ardèche. Donc certainement, ils se sont trouvés au milieu dans les Côtes-du-Rhône septentrionales. Ça, on peut à peu près le certifier. Pour le reste, c'est souvent difficile parce que si les 2 parents existent, bon, c'est plus facile. Si un parent existe, c'est très difficile. Et si les 2 parents ont disparu, c'est impossible.
D'accord. Je rappelle aux auditeurs que nous parlons de vin, bien sûr.
Au fait, le vignoble, on pourrait le dire, qu'autrefois, les croisements étaient gigantesques. On peut parler d'un vignoble qu'on plantait autrefois. C'était une sorte de bézodrome gigantesque, excusez-moi l'expression, pour la vigne.
Bon, soyez naturel, David, aucun problème.
Tout le monde se croisait avec tout le monde.
Vous êtes sur une production de 13 000 bouteilles,
sur 2 hectares. Ouais. Historiquement, il y en a 5. Mon père vieillissant et avant qu'on reprenne, qu'on s'y investisse.
Il a arraché ou vendu ?
Non, il n'a pas arraché. Il a confié 3 hectares qu'il loue à un vigneron qui prendra un grand soin de ces 3 hectares. Parce qu'à la fin, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé seul. Donc, 2 hectares étaient largement suffisants. Donc, pour l'instant, au niveau de la reprise, on est sur 2 hectares.
Il ne voulait pas rapatrier dans votre giron familial les 3 autres un jour ?
Si, ça fait partie, ça fait partie de la suite. Mais là... Vous avez compris, on est encore
au début.
On y va aussi avec beaucoup de confiance, mais aussi avec beaucoup d'humilité.
Bon, vous avez combien de cuvées là ? Parce que sur 2 hectares, il y a combien ? 2 cuvées, non ?
Voilà, on a 2 cuvées. Donc on est sur le terme Roussanne. Ce qui est important de. Alors je vous ai parlé de l'appellation Chignin-Bergeron. Historiquement, pendant 35 ans, mon père, enfin, au niveau de sa roussanne, elle était en AOC, en Chignin-Bergeron. Et il y a 5 ans, il a fait un choix assez osé, mais qui devient assez courant. Maintenant, il a fait le choix de sortir de l'appellation pour aller au bout, de ses convictions et de pouvoir faire le vin tel qu'il le souhaitait, je dirais, libéré de l'emprise parfois des normes. Donc c'est pour ça qu'on parle de Roussanne et pas de Chignin-Bergeron.
C'est un choix.
C'est un choix qu'il a fait il y a 5 ans.
Donc il y a 2 cuvées, c'est ça ?
Voilà, parce que ce qui l'a intéressé sur ce cépage, c'est d'aller chercher de la richesse. C'est quelqu'un qui a complètement initié en Savoie la notion de vendange tardive.
Oui.
Donc voilà, il a sorti des cuvées complètement extraordinaires en travaillant sur du grain noble, pour être noble.
Ouais. D'accord, c'est des
voilà, mais il a toujours cherché à avoir un bel équilibre sucrosité, acidité.
Mais ils sont sucrés ou ils sont secs, vos vins ?
Si, ils sont sucrés. Si c'est vendange.
Ils sont sucrés les deux.
Oui, on a du sucre résiduel, mais vous allez voir avec une belle acidité sur la cuvée au nom du père.
Alors au nom du père, ça on a bien compris.
Ah, vous avez compris.
Voilà. La deuxième s'appelle comment ?
L'autre s'appelle la cuvée confidentielle, parce que là on est vraiment dans une logique de vendange beaucoup plus tardive. Et donc là, on est soumis aux aléas de la météo. C'est quelque chose qu'il n'est pas possible de réussir chaque année. Il y a des années blanches, donc évidemment, là, on a pu sortir 2800 bouteilles, donc on est vraiment dans cette confidentialité.
C'est extraordinaire, votre vie. C'est de l'artisanat haut de gamme, c'est incroyable.
Voilà, c'est vraiment... c'est une personne qui est passée au caveau, qui parlait de vin d'auteur. Je crois qu'on est vraiment dans cette logique-là. C'est un travail totalement artisanal.
Il est beau le monde du vin, David. On a la chance de côtoyer des garçons comme Emmanuel, de rencontrer des belles rencontres. C'est des belles rencontres.
Est-ce que vous avez du botrytis dans la région ou pas ? Ou c'est de la dessiccation ?
Non, du botrytis.
Il y a du botrytis. C'est quoi votre truc, la botrytis ?
C'est un petit champignon qui sur des raisins secs, produit la pourriture grise, qui n'est pas souhaitable du tout. Mais sur des raisins mûrs, il perce les peaux. Il les transforme la peau dans une espèce de tissu gore. L'eau s'évapore, tout le reste se concentre et il y a une espèce de phénomène d'autocuisson qui transforme les arômes dans une gamme extrêmement complexe, très riche, magnifique. C'est un champignon, donc il y a des odeurs proches du champignon, mais il y a des odeurs de miel, d'abricots secs, de plein de choses, une espèce de pléthore aromatique, c'est magique.
On parle de pourriture noble.
De pourriture noble, quoi.
Pourriture noble,
et pour terminer, dites-nous, combien ça coûte au vin ? C'est-à-dire que si on veut les avoir, il faut les voir.
Les deux vins, donc le
au nom du père,
elle est à 15 € TTC. Oui. Et la confidentielle, elle est à 22 € TTC.
Vous avez un site internet pour les
voilà, ça c'était quand même l'apport des fistons, parce que mon père a vraiment vécu en dehors de tous les champs de communication. Il n'y a même pas un panneau d'indication pour arriver chez lui.
C'est aussi très beau.
Voilà, il n'y avait aucun panneau d'indication pour arriver chez lui.
Au moins, les pénards, il n'y a pas de clients, tranquille.
Que des gens qui sont filtrés sur
le site.
Donc le site, je vous le donne. Donc le site, c'est Roussanne Savoie tout attaché, roussanne2s2n.com. Et donc, il y a un système de vente en ligne.
Merci beaucoup,
sécurisé.
Merci beaucoup. On va aller voir ce site. Et puis, bravo. C'est une très, très, très belle histoire de vin. Et c'est une très belle histoire de famille aussi. Merci, Emmanuel. Gérard, Redé.
Dégustation à l'aveugle, je mets au défi de
on va essayer. Avec modération, mais il faut le faire. Merci, Christelle Taré, Frédéric Olivier, David Cobold, ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine, qui a très bien préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien, parfait aussi pour la partie technique. Fin de ce numéro d'une vidéo Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Sud Radio. InVinoRadio.tv, notre page Facebook, notre compte Instagram InVino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission. Nous serons délocalisés chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, c'est l'heure, c'est le moment du déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français, puis surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations. Salut, bon dimanche.
Sud Radio InVino.